Emmanuel Bove, la tante. Dans le long et étroit jardin de leur villa de Chatou, M. et Mme Guyot prenaient le frais. Ils étaient assis dans des fauteuils d'osier aux couleurs entrelacées. La nuit tombait lentement. De temps en temps, venant de la gare, on entendait un petit tamponnement. Quand on a été enfermé toute une journée dans un bureau, il n'est pas désagréable de respirer un peu de bon air, dit M. Guyot. C'est tout à fait naturel, répondit sa femme sur un ton sec. Mais cela ne devrait pas t'empêcher de faire ce que tu as à faire. J'ai le temps. Il sera trop tard, il va faire nuit. Je ne vois pas pourquoi tu t'es mis dans l'idée que je ne pouvais pas arroser moi-même. Je te répète que je vais arroser. Dans un petit quart d'heure, il va faire nuit, je te préviens. Elle venait à peine de prononcer ces mots lorsque la sonnette de la porte d'entrée retentit. Elle se leva bruyamment pour montrer sa satisfaction. Enfin, elle allait avoir affaire à quelqu'un de normal, à quelqu'un qui ne craignait pas de remuer, de sortir, de rendre des visites. Après avoir traversé le corridor qui coupait la villa en deux et ouvert la porte d'entrée, elle se trouva en présence d'un voisin, M. Courtois. C'était un homme gras, aux joues roses. Il était congestionné ce soir-là, et le bleu de ses yeux, qui d'ordinaire attirait l'attention, semblait moins vif au milieu du visage violacé. « Est-ce que votre mari est là ?» demanda M. Courtois, de la voix d'un homme suppliant qu'on lui donne à boire. « Naturellement. Entrez donc, M. Courtois. » Peu après, le visiteur apprenait aux époux Guyot qu'il était dans la plus profonde anxiété. Mme Courtois n'était pas encore rentrée. Jamais pareil événement ne s'était produit. Elle était partie pour Paris après le déjeuner, uniquement pour faire des achats. Elle aurait dû être de retour au plus tard à 7 heures. « Il est à peine 10 heures, » dit M. Guyot en tirant sa montre qui marquait 10h10, trichant un peu par charité. « Tu n'as donc pas compris, » dit Mme Guyot à son mari, « que Mme Courtois aurait dû être rentrée à 7 heures ou plus tard ?»« Elle a pu rencontrer des amis, être retenue à dîner ?»« Non, non, jamais elle ne se laisserait entraîner comme cela. Elle aurait dû être là à 7 heures. Mettons 8 heures, si vous voulez. » « S'il était arrivé un accident à votre femme, » continua Mme Guyot, « la police vous aurait déjà prévenu. Mme Courtois a certainement des papiers sur elle. » Le visiteur ne s'était pas assis. « Je vais rentrer, » dit-il. « Monsieur Guyot, je me suis permis de vous déranger pour vous demander la grande bonté de me tenir compagnie. C'est affreux d'être seul dans une pareille circonstance. Est-ce que cela vous ennuie ?»« Oh, pas du tout. » Quelques instants plus tard, les deux hommes sortaient. La villa de M. Courtois était semblable à celle de son voisin. Mais comme elle était située de l'autre côté de la rue, elle avait sa façade au nord au lieu de la voir au midi. Ils traversèrent le corridor qui la coupait, elle aussi, en deux, mais ne se rendirent pas dans le jardin. Il était un peu plus petit que celui des Guyot et, au lieu de former un rectangle régulier, il allait en se rétrécissant vers le fond. Ils s'assirent dans la véranda. Comme l'a remarqué ma femme, dit M. Guyot, je crois que si quelque chose était arrivé, on vous aurait déjà prévenu. Vous pensez bien que dans une grande ville comme Paris, tout est organisé parfaitement. Évidemment, mais imaginez un accident. On conduit ma femme à l'hôpital. On a autre chose à faire que de songer à me prévenir. Le sac à main de ma femme a peut-être été volé, perdu. On ne sait qui elle est. Je vous en prie, monsieur Courtois, ne laissez pas aller ainsi votre imagination. Je comprends bien votre anxiété, mais enfin, pour le moment, il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter à ce point. Il y avait une heure que monsieur Guyot s'efforçait de réconforter son interlocuteur, cela avec une patience inlassable, lorsque les bruits d'une automobile parvinrent dans la véranda. Les deux hommes coururent à la porte d'entrée. Des rires, des appels retentissaient dans la rue. Les portières de la voiture étaient ouvertes. Un chien gambadait. Un monsieur passait des paquets à deux fillettes. Une vieille dame attendait que ce fût fini pour quitter la banquette. Et Mme Courtois, debout sur le trottoir, disait qu'elle allait chercher son mari, qu'il allait prendre les paquets, qu'il ne fallait pas se donner tout ce mal. « Vous êtes à Paris ? s'écria M. Courtois à la vue de sa mère et de son beau-père. Tout le monde entra dans la villa. M. Guyot, à qui personne ne faisait attention, se tenait discrètement dans un coin. Au bout de quelques minutes, il s'approcha de M. Courtois. « Je vais vous laisser maintenant. »« Oh, pardon, excusez-moi, je suis tellement bouleversé. Vous ne voulez pas prendre quelque chose avant de partir ?»« Non, merci, je ne veux pas vous déranger. Quand on est en famille, n'est-ce pas ?»« Oui, oui, je sais, je n'insiste pas. » Au lieu de traverser la rue et de rentrer chez lui, M. Guyot se rendit sur la place de la mairie, qui se trouvait à 500 mètres de là. Il se sentait abattu. « Je devrais pourtant me réjouir, murmura-t-il. C'est honteux de se laisser attrister par le bonheur des autres. » Le cinéma, quoique obscur, était encore ouvert, mais il n'y avait plus personne à la caisse et les panneaux sur lesquels on collait les affiches avaient été remisés. Dans le silence de la place, le bruit qui venait de la cabine de projection semblait plus rapide. Peut-être expédiait-on le dernier film. M. Guyot entra dans un café, prit un verre de vin blanc. Comme il ne parvenait pas à se débarrasser du malaise que lui causait le retour de Mme Courtois, il commanda un autre verre, puis un autre encore. Enfin, à minuit, il rentra à contre-cœur chez lui.